Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec le professeur de mathématiques David Sauzet, que j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois, pour qu'il nous parle de ce monde si particulier que sont les mathématiques et pour qu'il nous balade dans ce qui est pour moi une jungle épaisse, mais pas pour tout le monde.
Bonjour et merci pour cette troisième invitation.
Eh mais il y en aura d'autres. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, David Sauzet, vous avez choisi, on avait fait une émission de mathématiques, vous m'aviez surpris, parce que je m'étais quand même préparé, et vous étiez parti sur un thème que je n'avais pas du tout prévu, qui était la musique, oui, qui est une de vos passions. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des mathématiques et des codes secrets.
Exactement, des messages secrets.
Des messages secrets. Alors bah, écoutez, dites-nous en plus.
Donc, on va voir comment, depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, ont évolué les messages secrets, les méthodes, et comment on est arrivé aujourd'hui à une place importante des mathématiques. Alors, le plus ancien texte qu'on trouve à ce sujet date de moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un grec, Hérodote, qui écrit son livre qui s'appelle Histoire, et il parle du conflit entre la Grèce et la Perse. Donc, la Perse avait décidé d'envahir la Grèce par les eaux et avait fait pour cela, mis un plan pour construire une flotte assez impressionnante et ça devait durer plusieurs mois. Comme souvent, il y a des trahisons et donc...
Déjà.
L'un d'eux avait décidé d'avertir les Grecs et donc il fallait faire parvenir un message aux Grecs. Donc... Dans cette histoire, il avait écrit un message secret sur une tablette qu'il avait recouvert de cire. Et donc les tablettes étant arrivées chez les Grecs, au début personne n'a pensé à gratter la cire. Et quelqu'un a réussi à trouver l'astuce. Et donc en grattant la cire, ils ont réussi à découvrir le message. Donc ce message prévenait les Grecs d'une attaque dans quelques mois de la Perse. Ce qui a donné le temps aux Grecs de former une petite flotte et d'attendre patiemment que les Perses arrivent. Donc, les Grecs ont attendu que les bateaux rentrent dans la baie, donc plusieurs mois plus tard. Et lorsque les bateaux étaient dans la baie, ils ont été bien surpris de découvrir une flotte aussi importante que la leur, les coincée dans la baie. Et la bataille a été pliée en une journée. Voilà donc la première histoire que j'ai trouvée dans le livre dont je vous parlerai tout à l'heure.
Ça, c'est la plus ancienne. Le code secret, c'est souvent quand même militaire. Ça se rattache toujours voilà, à oui. Des opérations de guerre, oui. Là où le secret est primordial.
C'est ça. Et aujourd'hui encore, on va le voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'envoyer des messages secrets? Donc, souvent, oui, pour l'art de la guerre. Alors, on trouvera, par exemple, des exemples où on rasait la tête d'un esclave, on écrivait quelque chose sur son crâne, on attendait que les cheveux repoussent au bout de 2-3 semaines.
C'est très original.
Et ensuite, il n'y avait plus qu'à raser la tête de l'esclave pour retrouver le message. En Chine, par exemple, on écrivait des messages sur des fines soies que l'on roulait en boules minuscules. Ces boules étaient recouvertes de cire et ensuite on pouvait les ingérer. Et arrivé à destination, on pouvait ensuite les faire ressortir, si je peux dire, et ressortir le message de soie pour avoir le fameux message secret qui était censé apporter donc, des informations très importante.
Ce que certains aujourd'hui font pour passer de la drogue, ce qu'on appelle les bulles.
Voilà, des bulles.
Ils sont chargés de drogue dans leurs intestins.
Exactement.
Finalement, l'imagination humaine tourne un peu en rond.
Oui. Alors, on trouve par exemple en Italie au XVe siècle, Giovannini Porta, qui a écrit un livre et qui donne des méthodes, par exemple, pour cacher un message dans un œuf dur. Donc, vous écrivez sur la coquille... Le message pénètre la coquille et va imprimer l'œuf dur à l'intérieur, mais on ne voit rien sur la coquille.
Ah bon, c'est possible, ça vous l'avez essayé?
Non, je ne l'ai pas essayé.
Ah ben je vais essayer.
Donc la personne n'a plus qu'à casser l'œuf, et à l'intérieur de l'œuf, vous avez le fameux message. Voilà.
Donc ça veut dire que c'est la coquille est poreuse.
Oui, exactement.
Et qu'elles sont poreuses, c'est bien, mais que ça se retrouve à l'identique sur le blanc, c'est un peu plus surprenant.
Donc on trouve comme ça, dans l'ancien temps, tout un tas de méthodes qui consistaient en fait à cacher le message, voilà. Donc un peu plus tard, on a un peu évolué, ou parallèlement, et on ne cherchait pas non plus à cacher le message, mais on cherchait à le chiffrer, c'est-à-dire à le coder. Voilà.
C'est là que les mathématiques interviennent.
Et pas encore, tout à fait. Donc l'exemple le plus célèbre est ce qu'on appelle le chiffrement de César. Donc ça consistait à écrire un texte en langage clair, donc compréhensible par tout le monde, et vous décalez les lettres de trois rangs dans l'alphabet. Donc par exemple, quand vous écrivez bonjour, B-O-N et J-O-U-R, le B, vous sautez trois lettres dans l'alphabet, ça fait C, D et E. Donc vous, à la place du B, vous mettez E et ainsi de suite. Vous écrivez votre message comme ceci, vous collez tous les mots afin qu'on ne distingue pas si c'est un mot d'une lettre, deux lettres, trois lettres. Et donc, ce chiffrement de César qui était célèbre a servi par exemple à César pour annoncer à Cicéron, qui était sur le point de se rendre, qu'il devait attendre l'armée qui allait arriver pour lui porter secours. Donc Cicéron a attendu Jules César et ils ont pu gagner la bataille. Alors ce chiffrement de César, il est important. Il marque un peu le début du chiffre donc. Vous avez deux choses différentes. Ce que l'on appelle la clé et ce que l'on appelle l'algorithme de codage. Donc, j'y reviendrai plusieurs fois. Donc ici, la clé, c'est 3. Donc c'est un décalage de 3 dans l'alphabet. Et l'algorithme de codage vous dit comment vous allez procéder avec ce 3. Voilà. Donc c'est très simple. Alors, c'est d'autant plus simple que pour coder le chiffre, vous décalez de 3 dans l'alphabet. Et pour le décoder, vous n'avez plus qu'à décaler de 3, mais dans l'autre sens. Voilà.
Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme exactement ?
Un algorithme, c'est un peu une recette. C'est un peu comme une recette de cuisine. Vous allez d'abord prendre une casserole, vous allez ensuite mettre 300 grammes de farine, vous allez ensuite mettre 2 œufs à l'intérieur. Donc un algorithme au sens général, vous allez prendre les lettres de l'alphabet, vous allez les écrire dessous avec un décalage de 3, vous prenez les lettres du texte, etc. Voilà.
C'est une méthode.
C'est une méthode, voilà. Un procédé, on peut dire. Voilà. Alors, ce chiffrement, vous me direz, il est pas terrible. C'est vrai, donc, mais c'était les balbutiements. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut créer un chiffrement indéchiffrable ? C'est une question importante. Alors, historiquement, il y a un exemple qui s'appelle le chiffre de Bill. Bill, ça s'écrit B-E-A-L-E. Donc, on est aux États-Unis dans les années 1820. Il y a un homme qui s'installe dans un hôtel et qui reste plusieurs semaines. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, il s'en va et il revient 2 ans plus tard. Il revient 2 ans plus tard, il reste quelques jours, et il va voir le patron, il lui dit « Écoutez, voilà, je vais vous donner un petit peu d'argent, et en échange, vous allez me garder cette boîte en fer, et si personne vient la réclamer d'ici 10 ans, je vous demanderai de l'ouvrir. Par contre, si quelqu'un vient, ben vous n'aurez qu'à, si c'est qu'elle est là, vous lui donnez. » Voilà. Donc le gars de l'hôtel attend, et personne ne vient. Donc au bout de 10 ans, il ouvre cette boîte. Il y avait à l'intérieur 4 lettres. La première lettre était un texte écrit en anglais. Les 3 autres lettres étaient chiffrées. Étaient chiffrées avec des nombres. Donc c'était une succession de 301, 590, 15092. Voilà, assez impossible. Alors que disait la lettre claire ? Elle racontait donc que cet homme avait trouvé avec ses comparses un gisement d'or et d'argent. Et donc, il racontait comment ils en avaient extrait une grosse quantité et ne disait pas où ça se trouvait. Donc, les 3 lettres chiffrées, il dit, voilà, j'ai écrit ensuite 3 lettres. La première décrit l'emplacement de là où on a mis, rangé, caché tout l'or. La deuxième donne le contenu de ce qui est caché dans cet endroit-là, c'est-à-dire le détail de tout ce que nous avons amassé. Et la dernière lettre donne la liste de tous les bénéficiaires, tous mes camarades qui m'ont aidé à extraire l'or et à amasser cette fortune. J'ai la liste ici. Pendant longtemps, ces 3 lettres chiffrées avec des nombres, personne n'a su comment les déchiffrer. Jusqu'au jour où, des dizaines d'années plus tard, quelqu'un a réussi à déchiffrer la deuxième lettre, celle qui donne le contenu. Alors, il a pensé que les numéros qui étaient sur les lettres correspondaient à la place d'un mot dans un texte. Il a cherché, il a pris la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, le numéro 553, par exemple, correspondait au 553e mot de la déclaration d'indépendance. Et comme ça, il a reconstitué la lettre. Donc, on a pu savoir ce qu'il y avait.
Mais pourquoi il est arrivé à cette conclusion? Pourquoi prendre ce texte et pas un autre texte?
Je suppose qu'il avait essayé beaucoup de méthodes. Et donc, la lettre a été déchiffrée comme ça. Donc, on sait aujourd'hui, vous trouverez sur Internet, si vous cherchez chiffrement de Bill, vous verrez le détail de la lettre originale et la traduction. Et vous verrez que le trésor qui est décrit dans cette lettre.
Et on l'a trouvé, ce trésor?
Les deux dernières lettres qui restent font encore l'objet de recherche aujourd'hui.
Donc, on n'a toujours pas déchiffré.
Donc, petit 1, personne n'a réussi à déchiffrer les lettres. Petit 2, personne n'a trouvé le trésor.
Donc, ça laisse encore de l'espoir.
Donc, il existe des manières de coder des messages que on n'est pas capable de déchiffrer, en fait. Alors, pour chiffrer un message de manière à ce qu'il soit indéchiffrable, c'est simple. Hein, il suffit que j'invente moi-même une chanson que très peu de gens connaissent et je vais faire le même procédé. Et si personne ne connaît la chanson, personne ne pourra déchiffrer chaque mot avec chaque lettre. Alors, le chiffrement tel qu'il est marqué là, c'est bien, mais ce n'est pas très utile. Donc, en temps de guerre, quand vous devez transmettre des ordres par voie câblée, on va dire, comme c'était le cas dans la Seconde Guerre mondiale, il faut que ça se fasse rapidement sur le champ de bataille et il faut que ça puisse se décrypter très facilement. Voilà. Donc, une autre étape décisive va être pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec cette machine Enigma qui avait été créée par les Allemands, dès les années 30 déjà. Alors, comment fonctionnait cette machine? Bon, c'était simple. Il y a toujours la clé et l'algorithme. Donc, la clé, vous aviez une espèce d'annuaire avec tous les codes différents qu'on pouvait utiliser. Les officiers étaient chargés de changer de code tous les jours, de choisir une nouvelle clé. Donc, ces clés étaient plus compliquées que le chiffrement de César. Ce n'était pas un décalage de 3 lettres. Hein. Donc, c'était une série de nombres et de chiffres qui rentraient dans la machine. La machine Enigma ressemblait à une grosse machine à écrire. Donc, quand vous aviez fait les réglages, qui consistaient à assembler les rotors, brancher les fils, etc., le chiffrement du jour, la clé donc, l'algorithme de codage était inconnu de la personne, c'était tout mécanique. Donc, on avait une mécanisation. Ça veut dire que la personne tapait le texte clair au clavier et il sortait, sur un panneau lumineux, les lettres correspondantes à celles que vous avez tapées. La particularité de cette machine Enigma, c'est que si vous appuyez par exemple 3 fois sur la lettre A, elle n'était pas codée 3 fois de la même manière. Donc, si le premier A devenait un B, le deuxième A ne devenait pas un B, il devenait autre chose. Et donc, c'était très 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 compliqué d'arriver à déchiffrer les messages.
Ça veut dire qu'il fallait quelqu'un qui serait procuré la machine, il aurait volé par exemple, est-ce qu'il aurait pu accéder au décodage?
Non.
Non, parce qu'il fallait en plus le livre et la clé.
Alors, les Allemands avaient prévu cette machine, de sorte que même quelqu'un qui a la machine et même quelqu'un qui a les clés de codage ne puisse pas arriver à déchiffrer les messages. Mais ça, c'était sans le génie de Alan Turing.
Dont nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission.
Donc Alan Turing, en 1933, alors qu'il est tout jeune, il est contacté par ce qu'on appelle l'école du chiffre, les Anglais. Donc, dès 1933, donc, on lui dit, voilà, il y a des communications allemandes, le nazisme monte, on voudrait arriver à déchiffrer ceci, mais on vous prévient, vous ne pourrez jamais dire à quiconque que vous travaillez là-dessus, même pas votre famille. Donc, il a été embauché. Alors, toujours pareil, il faut un petit peu un coup du sort, des trahisons. On a réussi, quand je dis on, c'est les alliés, hein, parce que c'est Turing travaillait pour les alliés. On a réussi à avoir, d'une part, un plan de la machine de Turing, parce que quelqu'un voulait trahir les Allemands et a fait passer les plans de la machine à Turing.
Les machines Enigma, c'est ça?
La machine Enigma, voilà.
Et ces machines, elles étaient conçues par qui?
C'était un ingénieur allemand qui l'a faite à la base.
C'est un mathématicien?
Non, c'était un ingénieur. Il avait fait un premier modèle qui était plutôt simple, qu'il a sophistiqué au fur et à mesure. Les Allemands n'en ont pas voulu au début. Et ensuite, la guerre arrivant, ils l'ont rappelé pour produire en série la machine Enigma qui l'a en fait complexifié au fur et à mesure du conflit. Donc, on a réussi à voir les plans de la machine Enigma. Et un jour, les Russes ont trouvé un officier allemand mort. Et il tenait encore dans ses mains un exemple de bottel à des codes de la machine Enigma. Donc, armé de ces deux piliers quand même importants, la machine et les codes, on n'arrivait toujours pas à déchiffrer les messages. Donc, c'est là qu'Alan Turing entre en marche. Et donc, il a l'idée de mécaniser le décodage. C'est-à-dire, plutôt que de faire à la main, il construit des machines qu'on appelle des bombes. Donc, c'était des machines qui devaient faire la moitié de cette pièce ici. Et donc, vous entriez et testez différentes configurations. Et en général, à la fin de la journée, ces machines étaient capables de déchiffrer les textes du jour. Quand vous arriviez au lendemain, les Allemands changeaient encore de message, de codage, pardon, et donc il fallait tout recommencer. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient tous les jours pour déchiffrer ces messages. Et il y avait beaucoup, par exemple, de cruciverbistes. Donc, des gens qui étaient à l'aise avec les mots, reformuler les mots. Et c'était vraiment un casse-tête pour arriver à faire tout ça. Donc, en mathématiques, Turing, donc on arrive déjà un peu sur le côté mathématique, puisqu'on est sur l'automatisation, les machines. Et Turing, c'est lui qui a imaginé les premiers ordinateurs.
Mais pourquoi, les gens qui ont voulu dissimuler, donc élaborer des codes, pourquoi ils ne sont pas servis des mathématiques? Pourquoi uniquement des mots?
Il a fallu arriver en fait à l'ère du numérique, l'ère actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un texte va être transformé en nombre. Quand j'écris dans mon ordinateur, quand je tape la lettre A, ça va être par exemple codé avec le nombre 161 ou autre chose. Voilà. Et donc, tout le texte est traduit en nombre. Quand vous écoutez de la musique, comme on va écouter tout à l'heure, c'est des nombres. Donc tout est numérisé, c'est ça la numérisation. Donc nous sommes à une ère du numérique. Donc une fois que vous avez des machines, plutôt que de écrire patiemment un texte qui contient 2500 caractères, puis de décaler tous les caractères de 3 à la main, eh bien, vous faites faire à une machine avec des nombres, ça va très vite. Si le A c'est 1 et le B c'est 2, vous lui faites ajouter 3 et il va recoder aussi sec et beaucoup plus vite que nous.
Ça veut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un robot hein, finalement, oui. Dans lequel on a rentré un maximum d'informations, l'intelligence artificielle serait capable de déchiffrer n'importe quel texte?
Non.
Ça n'a rien à voir.
Elle ne serait pas capable.
À preuve d'ailleurs, puisque vous donniez l'exemple tout à l'heure de cet homme qui s'était enfermé dans la chambre d'hôtel et dont on n'a toujours pas décodé 2 documents. Donc aucune machine aujourd'hui n'est capable de le faire.
Aucune machine n'a réussi. Donc les machines ont leurs limites qui évoluent. Hein. Vous pouvez imaginer l'intelligence artificielle comme un paysage noyé dans l'eau. Et il y a encore quelques sommets, on va dire, inaccessibles. Il n'y a pas si longtemps, il y avait le jeu de Go qui était inaccessible, oui. C'est-à-dire les machines étaient moins bonnes que l'homme, et récemment, la machine a battu l'homme. Voilà. Vous trouverez par exemple une conférence sur Internet sur l'intelligence artificielle de celui qui a créé Siri, moteur de recherche sur les iPhones, et donc qui explique que l'intelligence artificielle n'existe pas. Il explique par exemple que pour reconnaître la photo d'un chat, un enfant n'a besoin que de 7 photos. Donc avec 7 photos, il est capable ensuite, à la 8e, de reconnaître s'il y a un chat sur la photo ou pas. Voilà. Un ordinateur, pour qu'il arrive à reconnaître un chat sur une photo, il lui faut 10 000 photos.
Ah oui, il y a encore de la marge dans quelques espoirs.
Il y a encore de la marge. D'autre part, le cerveau humain va consommer, lui, pour reconnaître cette photo de chat, une énergie dérisoire, quand l'ordinateur, lui, il va lui falloir peut-être 15 000 fois l'énergie du cerveau humain, voilà, un coup. Voilà. Bon, on n'est pas encore au stade où on peut dire que les machines sont intelligentes. Ça résonne souvent par statistique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une requête, par exemple, moi, quand je pose une énigme à mes élèves que j'ai en classe, je vais d'abord tester ChatGPT, voir si l'énigme, il la trouve. Bon, en maths, il n'est pas très bon. Mais si l'énigme a déjà été cherchée par quelqu'un, et qu'elle a été publiée sur Internet, il va la trouver. Et donc, statistiquement, il va récolter la réponse quelque part, il va la donner. Voilà.
Parce que vous posez des énigmes à vos élèves.
Oui, je leur pose des énigmes, mais je suis obligé de modifier le contexte afin qu'ils n'aillent pas chercher bêtement sur ChatGPT et recopier ce que ChatGPT leur propose, qui parfois est stupide d'ailleurs. Donc, les mathématiques. Donc, Turing est connu sur le plan mathématique pour avoir répondu à une question mathématique qui occupait la communauté depuis un moment. Donc, il y avait 3 questions que l'on se posait autour de 1900, qui sont assez simples à comprendre. La première question, c'était, les mathématiques sont-elles complètes? C'est-à-dire, est-ce que tout peut être démontré? La deuxième question, c'était, est-ce que les mathématiques sont consistantes? C'est-à-dire, si je peux prouver un résultat, normalement, je ne peux pas prouver son contraire. C'est logique. Donc, il y a un grand mathématicien qui s'appelait Riemann, en 1900, et qui, lui, pensait avoir prouvé les deux premières. Et en fait, il s'était trompé. Donc, Gödel, en 1931, a démontré que la réponse à ces deux questions était non. Donc,
c'est des questions presque philosophiques.
Exactement.
Et comment on les démontre mathématiquement ?
C'est pas compliqué, ça fait affaire à la logique. Et dès qu'on touche à la logique, ça défie un peu l'intuition et c'est pas facile.
Alors par exemple, la première question, rappelez-nous quelle elle était.
Donc est-ce qu'on peut tout démontrer en mathématiques ?
Comment alors, peut-on, avec des maths, démontrer qu'on peut tout démontrer ou pas en mathématiques ?
Alors, Gödel a montré en fait que quand on regarde tout ce qui est démontrable, il reste quelque chose. Il n'a pas exhibé de questions, la question que l'on ne pourrait pas démontrer, mais il a dit, on peut prouver, je prouve qu'il y a un reliquat qui ne peut pas être démontré. Donc Gödel, en 31, a répondu non à ces deux questions. Et il restait encore une question à laquelle a répondu Turing, c'est la décidabilité. Donc précisément, est-ce qu'on peut savoir à l'avance si une propriété peut être démontrée ou pas ? C'est-à-dire, je pose une question. Est-ce que je peux dire, ben oui, on peut le démontrer, je ne sais pas le faire, mais je suis sûr qu'on peut le démontrer. Est-ce que je peux dire, non, là, ce n'est pas la peine de chercher, parce que je peux vous dire qu'on n'y arrivera jamais.
Ça, c'est plutôt du sentiment, mais ça ne prouve rien. Il n'y a pas de démonstration.
Si, c'est très important, parce que ça veut dire que lorsqu'on pose un problème, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de raison d'abandonner, et il n'y a pas de raison de continuer, mais en tout cas... on ne peut pas décider de suite si c'est oui ou si c'est non. Donc, ça complique les choses. Auparavant, on pensait que si je pose une question mathématique, je vais toujours trouver la réponse. Tandis que là, avec Gödel, on n'est pas sûr de trouver la réponse. Et avec Turing, en plus, on ne peut pas savoir avant de démarrer les recherches si ça vaut la peine ou pas. Donc, ça complique les choses. Et donc, c'est ça qu'a démontré Turing en 1936 dans son fameux ouvrage. Voilà. Donc, on a ces codages qui sont fortement donc liés aux mathématiques à partir de Turing, ont quand même une faiblesse dans le sens où ils sont symétriques. C'est-à-dire que la machine Enigma va coder un message et pour décoder, elle va le faire en sens inverse. Donc on s'est longtemps demandé s'il était possible de coder un message de manière à ce que ce ne soit pas symétrique. Et donc là, on arrive à l'époque moderne. On arrive dans les années 1970, il y a des mathématiciens qui ont prouvé qu'on pouvait faire ce qu'on appelle un codage asymétrique. C'est-à-dire, la manière de coder et la manière de décoder n'est pas la même. Et c'est exactement ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une image assez simple.
Avant que vous lanciez, il faut que l'on digère tout ça pour bien apprécier la suite. Est-ce qu'on fait une première pause musicale ? Vous nous avez soumis... une musique, quelle est-elle ?
Un beau morceau, une belle ballade qui s'appelle Corps Céleste. Et en anglais, ça se dit Heavenly Bodies.
Ah ben, je préfère ce mot qu'il y ait dit. Alors on écoute Corps Céleste. Oh, Nous avons entendu cette musique dans le choix de mon invité David Sauzé, le mathématicien qui aujourd'hui nous parle de codes secrets, de codage dans l'histoire et de l'intervention, bien sûr, des mathématiques. Alors, vous nous avez parlé beaucoup, David, de Turing. Alors, peut-être un mot, parce que nos auditeurs ne savent pas forcément qui est Turing, qui s'appelait Alan Matheson Turing, qui est né le 23 juin 1912 à Londres et qui est mort à Winslow le 7 juin 1954. C'était un mathématicien et c'était un cryptologue britannique qui est l'auteur de travaux qui ont fondé scientifiquement l'informatique et puis aussi un des pionniers très lointains, mais de ce qui agite aujourd'hui beaucoup le monde, c'est l'intelligence artificielle.
Oui.
Donc un garçon qui a une vie très riche, très particulière sous bien des aspects, hein, élevé en Grande-Bretagne par des amis de la famille et pas par sa famille, parce que sa mère a rejoint son père qui était en fonction en Inde, et puis après ils vont revenir au Royaume-Uni, à la retraite de son père en 1926, mais entre-temps, le jeune Turing, ben, il avait bien évolué parce que très tôt, il a montré des signes de ce qu'il faut appeler du génie, hein, c'est comme ça. On dit qu'il aurait appris à lire seul en 3 semaines, donc ce qui est quand même pas rien, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. Et il a montré très tôt aussi une affinité précoce pour les chiffres et les énigmes. Ses enseignants ont vite vu que ce garçon était un peu atypique. À l'âge de 7 ans, il était dans un collège. La directrice a très vite reconnu qu'il était différent des autres, qu'il avait un véritable talent. C'était quand même un enfant solitaire, introverti, qui est vite devenu d'ailleurs la tête de turc de ses camarades. Et à 13 ans, il a rejoint le Sherborne School, excusez l'accent anglais. Son premier jour de classe n'est pas passé inaperçu parce qu'il y avait une grève générale. C'était en 1926 et le jeune Turing, lui, il était décidé à faire sa rentrée envers et contre tous. Il a parcouru pour se faire seul et à bicyclette les 90 km qui séparaient son domicile de l'école. Il s'est même arrêté la nuit dans un hôtel, tout ça pour montrer que, comme l'on dirait maintenant, il en voulait. Et très vite, il a fait des prouesses, hein, vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, David. Il a résolu des problèmes très ardus pour son âge. En 1928, il a découvert que les travaux d'Albert Einstein, et il comprend alors, et il a à peine 16 ans, qu'il remette en cause les axiomes d'Euclide. Alors, vous pouvez nous dire, c'est pas moi qui vais vous le dire, vous pouvez nous dire ce que sont les axiomes d'Euclide et également les lois de la mécanique céleste de Galilée et de Newton. Si vous voulez nous dire, David, qu'est-ce que c'est que ces axiomes d'Euclide qu'il a remis en cause ?
Eh bien, les axiomes d'Euclide, les axiomes mathématiques, sont des parties des mathématiques qui ne se démontrent pas. Par exemple, si je trace...
Ah ben ça répond à la question que vous dites, alors vous dites, est-ce qu'il y a des choses qui ne se démontrent pas ? Donc il y en a qui ne se démontrent pas.
C'est pas qu'on ne peut pas les démontrer, mais quand vous construisez des maisons, il faut bien partir de quelque chose. Et donc là, pour construire les mathématiques, il faut partir de quelques éléments qui ne se discutent pas. Donc par exemple, l'un de ceux-là qui est célèbre, c'est si je trace une droite et qu'il y a un point en dehors de la droite, je ne peux tracer qu'une seule droite parallèle à la première qui passe par ce point.
C'est du bon sens.
C'est du bon sens.
Mais jusque-là, je suis mathématicien.
Oui, mais ça, c'est sans compter sur les mathématiciens qui, plus tard, ont inventé une géométrie dans laquelle j'ai une droite et j'ai un point, mais je peux trouver deux parallèles qui passent par le point.
Ah.
Ça, c'est embêtant. C'est d'autant plus embêtant que cette géométrie, en fait, elle existe puisque c'est la surface du globe. Donc, c'est un problème. Bon, je ne peux pas détailler là, mais voilà. Donc, il existe plusieurs géométries. Et donc, les postulats d'Euclide peuvent être niés. Donc, c'est ce qu'avait compris Turing, déjà. Voilà. Donc, ensuite, vous parliez de le deuxième point de Turing que vous évoquiez, c'était
Alors, je reprends, oui, ce que je disais. C'est l'axiome d'Euclide. Et puis, les lois de la mécanique céleste de Galilée et de Newton.
C'est ça, les lois de la mécanique céleste. Donc, la gravité, hein, lorsqu'on regarde la trajectoire des planètes, etc., on peut les mettre en équation avec des règles assez simples, on va dire. Et lorsqu'on regarde l'infiniment petit, on se rend compte que ça ne marche plus. Donc le modèle classique newtonien ne marche plus. Et donc, c'est ce qu'avait compris également Turing. Voilà. Donc, remise en cause des outils utilisés par le passé. Voilà.
Alors, ce garçon a continué, il a travaillé sous la direction de mathématiciens célèbres, hein, Harold Hardy et d'autres, qui avaient suivi aussi les cours d'Arthur Eddington et de Max Neumann, qui l'initie à la logique mathématique, parce qu'il y a apparemment une logique mathématique.
Oui.
Enfin, il n'y a qu'une logique, parce que la mathématique, c'est toujours logique, dit-on. Il va être élu au King's College et il a une bourse de thèse et il a eu cette bourse de thèse grâce à sa démonstration du théorème central limite. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est, peut-être vous, David, un mot.
Le théorème central limite, par exemple, quand vous lancez un dé à 6 faces, hein, et si vous regardez les apparitions des faces, vous pouvez faire des statistiques. Voilà. Donc, admettons maintenant que je lance 2 dés donc, et que je fasse la somme des faces. Donc, le 1 plus 1 va arriver rarement. Pareil que le 6 plus 6. Par contre, quand je fais 4 plus 3 qui fait 7, je vais le retrouver aussi avec le 5 plus 1 qui fait 7. 5 plus 2 qui fait 7. Donc, il y en a qui vont arriver plus souvent que d'autres. Et si on...
Comment ça s'explique ? Parce qu'a priori, bon, on a 6 faces, 2 dés, 12 faces, on le lance, ça peut tomber de façon parfaitement aléatoire.
Si vous construisez un tableau avec 6 lignes et 6 colonnes, et que dans le tableau vous marquez la somme des faces, vous verrez qu'il n'y a qu'une case dans laquelle il y a 2, c'est la case 1-1. Par contre, la case où il y a 6, il y en a beaucoup.
Il y a plusieurs probabilités
3 plus 2,
que...
4, voilà. 4 plus, d'accord. 3 plus 3, 4 plus 2, etc.
Logique.
Voilà. Donc, en théorie, vous avez plus de chances de faire 7 en lançant 2 dés que de faire 1. Lorsqu'on fait l'expérience soi-même, si vous ne lancez qu'une fois, vous n'allez rien prouver, puisque en lançant une fois, il va y avoir qu'un seul résultat. Si vous le lancez 10 000 fois, vous allez observer d'une part que, effectivement, les pourcentages que vous observez correspondent à ce qu'on voit dans le tableau, c'est-à-dire la fraction, hein, ça arrive 4 fois sur 36, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on représente ces pourcentages avec un graphique, ça fait une courbe un peu spéciale qui fait une espèce de vague comme ça. Voilà. Et c'est ça le théorème central limite. Cette courbe qui fait une bosse s'appelle la courbe de Gauss. Et donc, les probabilités vont finir par ressembler à cette bosse, cette courbe en cloche. Voilà.
Donc voilà, nous savons ce que c'est que le théorème central limite que je découvre. Bon, il a également résolu le problème fondamental de la décidabilité en mathématiques, mais ça, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Et puis, il a fait une expérience de pensée que l'on nommera ensuite la machine de Turing avec ses concepts de programme, de programmation, et puis qui vont prendre tout leur sens lorsque on va arriver à la diffusion des ordinateurs. Ça, c'était dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis, ce modèle a contribué à établir la thèse de Church qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable. Oui. Là aussi, je parle de ce que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que le concept mathématique intuitif de fonction calculable ?
Eh bien, est-ce que je peux écrire des opérations simples pour calculer quelque chose ? Donc, si vous prenez le nombre pi, par exemple, et si je cherche les 10 premières décimales, c'est plus rapide d'écrire les 10 premières décimales que d'écrire une formule qui va calculer les 10 premières décimales. Par contre, si je prends le nombre 1 septième, eh bien, c'est plus facile d'écrire une formule qui va donner les décimales, en gros, hein, plutôt que d'écrire une à une décimale. Voilà. En gros, c'est ça le concept de calculabilité.
D'accord. Voilà.
Donné par Turing. Et donc, ce qu'on appelle couramment la machine de Turing, il a inventé une machine qui se déplace sur un ruban, dans lesquelles les instructions sont très simples. Des instructions du genre, si sur le ruban il y a un rond, la machine avance d'une case. S'il y a un triangle, elle efface ce qui a marqué et elle va à la case d'avant. S'il y a une croix, elle saute de case. Voilà, truc très simple. Et il a prouvé donc que cette petite machine, lorsqu'on la lance, on ne peut pas savoir ce qu'elle va faire. C'est impossible de savoir. Voilà. Personne ne peut dire quand est-ce qu'elle va s'arrêter, par exemple. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le test d'arrêt de Turing.
C'est un peu inquiétant, sur les prémices de l'intelligence artificielle.
Alors, il avait réfléchi sur l'intelligence artificielle et notamment, ce qu'on peut dire, créer une espèce de robot mécanique, voilà, doué de pensée. Et Je vous rappelle qu'on est dans les années 30 quand même, et il avait imaginé un protocole pour définir ce qu'est l'intelligence artificielle pour lui acceptable. Donc le protocole est le suivant. Vous prenez une personne que vous mettez dans une pièce et vous lui dites « De l'autre côté de la pièce, il y a un homme et une femme. » Vous ne pourrez pas parler avec eux, sinon à la voix, vous risquez de les reconnaître, mais ce qu'on vous demande, c'est de deviner qui est l'homme, qui est la femme. Pour cela, vous allez pouvoir leur poser des questions par écrit et ils vont répondre par écrit. Donc par exemple, vous pouvez dire à la personne A « Est-ce que vous êtes un homme ?» Elle va répondre « Oui ou non ?»
Mais là, c'est facile à distinguer.
La personne A va dire « Évidemment que je suis un homme. » La personne B va dire « Mais non, c'est moi. » Donc, n'écoutez pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si jamais la personne qui est en dehors de la pièce n'arrive pas à savoir qui est l'homme ou qui est la femme, à ce moment-là, on lui dira que l'un des deux est une machine. Et en gros, hein, par rapport à ses réactions, on saura si l'intelligence artificielle a fait le job ou pas. Voilà.
Alors pour enfin finir sur Turing, avant qu'on revienne au codage et au code secret, au codage dans l'histoire, bien il a une fin assez triste. Il a été poursuivi en 1952 pour homosexualité. L'époque était autre. Hein. Et pour éviter la prison, il a fait un choix assez surprenant, la castration chimique par prise d'œstrogène. Et il a été retrouvé mort très rapidement le 8 juin 1954. Il s'est empoisonné au cyanure. Il a fallu attendre, Elisabeth II a été un peu longue à reconnaître les mérites de Turing, puisqu'il a été reconnu comme héros de guerre et on lui a accordé la grâce royale à titre posthume uniquement en 2013. Rappelons qu'il est mort en 1954, alors que ça a été quand même grâce à lui, peut-être que la guerre contre l'Allemagne nazie a pris un tout autre tournant.
Oui, donc... On peut dire que s'il n'avait pas été là, il y aurait plusieurs millions de morts supplémentaires. Voilà. Si on lit, par exemple, dans ce bouquin, c'est très bien...
dont nous parlerait tout à l'heure,
ouais,
j'imagine.
C'est très bien expliqué. Alors, Alan Turing, comme vous l'avez dit, était homosexuel. Et il adorait Blanche-Neige. Donc, il est allé voir plusieurs fois au cinéma. Et donc, quand il a voulu mettre fin à ses jours, il a pris une pomme dans laquelle il a mis du cyanure. Et il a chanté la chanson, il a croqué dans la pomme. Et donc, on dit que l'image qui est sur votre ordinateur est une pomme croquée, c'est à cause de lui.
Celle d'Apple.
Oui, voilà.
D'accord.
Un hommage à Alan Turing.
Un hommage à Alan Turing, un petit hommage, mais pour un grand homme, malheureusement, trop longtemps méconnu. Il y a un très beau film, d'ailleurs, sur la machine d'Alan Turing, qu'on voit régulièrement sur les écrans. Alors, revenons à ces codages dans l'histoire, David Sauzet.
Donc, nous arrivons à l'ère moderne, les années 70. L'essor de l'informatique, tout est automatisé. Et donc, des mathématiciens ont une révélation et ils arrivent à faire ce que l'on appelle le chiffrement asymétrique. Alors, on va l'expliquer d'abord avec des couleurs. Donc, imaginez Alice et Bernard qui veulent s'envoyer un message secret. Donc, on va dire que ce message secret, c'est une couleur. D'accord ? Donc, la clé de chiffrement est une couleur. Alors, Alice et Bernard ont chez eux un pot de peinture jaune. Alice, elle, a sa couleur préférée. C'est un vert très particulier. Donc, Alice mélange au pot de peinture jaune son pot de peinture verte, que seule elle connaît. Bernard, lui, il aime le pourpre. Donc lui, au jaune, il va rajouter du pourpre. Donc quand Alice envoie un message à Bernard, elle prend le pot de jaune, elle met le vert à l'intérieur, elle envoie à Bernard. Bernard rajoute le pourpre à l'intérieur. Les trois couleurs ensemble forment une couleur bien spécifique que chacun des deux peut reconnaître pour authentifier le message. Si Bernard...
Donc là, on n'est pas sur le codage du message en lui-même, on est sur l'authentification de ce message.
L'authentification, en quelque sorte, c'est pour expliquer. Après, j'expliquerai avec des nombres, ce sera un peu plus technique, mais on essaiera de rester simple. Quand Bernard envoie son message, il démarre avec le jaune et le pourpre, et ensuite, Alice va rajouter sa couleur, et on aura une autre fois la même couleur exacte à partir de trois couleurs. Maintenant, imaginez un pirate qui est entre les deux et qui intercepte le message. Donc, s'il reçoit le message d'Alice, il va avoir du jaune et sa couleur, mais même s'il connaît la couleur finale, il ne connaîtra jamais ce qui a été rajouté par l'autre homme. Donc, il est impossible de retrouver comme ça la couleur finale. Donc, la vraie méthode, donc, qui s'appelle le système RSA, donc, quand vous ferez...
RSA, c'est autre chose.
Donc, Raviste Shamir Adelman. Donc, ce sont les trois mathématiciens. La prochaine fois que vous ferez des courses, des achats sur Internet, vous ferez, vous checkerez les informations de sécurité de la page et vous irez sur chiffrement et vous verrez que c'est chiffré avec une clé avec plusieurs bits, voilà, qui assure l'authenticité. Alors, qu'est-ce que c'est le chiffrement à l'aide de plusieurs bits? Donc, lorsque nous avons un nombre, il y a ce qu'on appelle les nombres premiers, comme 3, 5, 7, des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes. Donc, imaginons que je vous donne un nombre comme 403 et que vous deviez tester si c'est un nombre premier ou pas. Donc, on n'a pas vraiment de méthode très efficace pour ça, si ce n'est de tester si 403 est divisible par 3, par 4, etc., jusqu'à un certain nombre. Alors, on pourra remarquer que 20 fois 20 fait 400. Donc, une fois que j'ai testé 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20, ce n'est pas la peine de tester 21. Parce que si 21 marchait, ça veut dire 403 s'écrit 21 fois un nombre plus petit que lui. Donc, et or, j'ai déjà testé le plus petit. Donc, je peux réduire le travail avec 400 et m'arrêter à 20, ce qui est déjà un premier pas. Deuxièmement, je peux me contenter de prendre un nombre impair, puisque 43 est impair. S'il était pair, ce serait vite réglé. Donc, je vais tester uniquement 3, 5, 7, etc. Bon, quand bien même. Donc, si je vous donne un nombre qui a 10 000 chiffres et que je demande à l'ordinateur de chercher si c'est un nombre premier ou pas, il va mettre peut-être 10 minutes à trouver le résultat. Si je lui donne maintenant, au lieu de 10 000 chiffres, je lui donne 10 000 un chiffre de plus. Il y a 10 fois plus de combinaisons. Donc, il va mettre 10 fois plus de temps. En gros. Donc, finalement, on prouve qu'un ordinateur a ses limites et le plus grand chiffre, le plus grand nombre premier connu aujourd'hui, donc j'ai regardé ce matin avant de venir sur Wikipédia, date de 2018, il a 24 millions de chiffres. Donc, si on donne un très grand nombre à un ordinateur et qu'on lui demande de le décomposer en nombre premier, il mettra peut-être une année à répondre. Donc, ce système actuel...
Aujourd'hui.
Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le... ce qu'on a vu sur le chiffrement et déchiffrement, l'histoire, c'est cette succession de codage de messages et de personnes qui arrivent à casser le code, comme Alan Turing. Et à chaque fois, il faut trouver un système plus puissant qui est cassé à son tour et on essaie de trouver un plus puissant. Donc aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est la course au nombre premier. Donc, si vous connaissez un grand nombre premier que personne ne connaît, vous le multipliez par un autre grand nombre premier, ça fait un nombre démesuré. Vous pouvez chiffrer ce message avec ce nombre premier, sachant que pour le déchiffrer, vous êtes obligé de connaître la décomposition de ce nombre. Donc, lorsque vous tapez votre identifiant de carte bleue pour une transaction sur un site marchand, votre numéro de carte bleue qui fait 11 chiffres ou 13, il va être transformé en un grand nombre et on va utiliser un très grand nombre premier. On va vous dire, voilà, vous allez le coder avec ce nombre, ce qu'on appelle la clé publique. Donc, vous obtenez un très grand nombre que vous envoyez au site marchand. Même si un pirate intercepte ce très grand nombre, il ne sera pas capable de décomposer et de retrouver votre numéro de carte bleue. Donc, par contre, le site marchand qui, lui, peut décomposer celui-là, avec cette méthode-là, va décomposer rapidement et pourra retrouver votre numéro de carte bleue. Donc, c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Alors, il se pose alors deux questions. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve aujourd'hui un moyen de décomposer rapidement un nombre en nombre premier? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est l'effondrement du système bancaire.
Donc voilà, il ne reste plus qu'à chercher.
Si demain, quelqu'un trouve comment factoriser un nombre à 24 millions de décimales en 3 minutes, c'est foutu. On peut arrêter toutes les transactions sur Internet, il n'y aura plus rien de sûr. C'est terminé. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est les criminels peuvent-ils chiffrer leurs messages de manière à ce que personne ne puisse les déchiffrer? Alors ça, c'est une question d'éthique. Alors bon, a priori, les Américains ont décidé que non. Donc, d'après ce que j'ai lu dans ce bouquin, ils obligent donc les pays à chiffrer leurs messages avec un nombre premier, mais qui n'est pas trop grand. Voilà, donc on est limité dans le chiffrement, de manière à ce que eux puissent quand même déchiffrer ces messages, et pour que vous ne puissiez pas, par exemple, chiffrer un message avec un nombre premier trop grand qui empêcherait la NSA de déchiffrer vos messages. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est la course au nombre premier et les Américains, l'armée américaine, sont les plus intéressés dans la recherche et dans le premier. Et donc, il y a des prix pour qui trouvera un grand nombre premier aujourd'hui.
Alors, j'avais commencé l'émission en disant, finalement, le codage dans l'histoire, ça s'appliquait surtout à la guerre. Vous venez de nous expliquer qu'aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau champ, c'est l'économie. C'est les transactions, ce sont les transactions.
Oui, mais l'économie, c'est la guerre aujourd'hui. Il faut de l'argent pour faire la guerre. Et vous le voyez tous les jours, hein. Qui sont les plus puissants? Je ne sais pas si c'est l'armée américaine ou si c'est les grandes firmes comme Amazon, Google, les GAFAM, hein, tout ce qu'on appelle.
La puissance d'un État aujourd'hui, voilà, un État moyen.
Voilà, qui ont les moyens financiers de faire énormément de choses. Voilà.
Et donc, ils doivent avoir en leur sein certainement beaucoup de mathématiciens, j'imagine.
Oui. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'ère du numérique, c'est des maths. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes non résolus en mathématiques et pour lesquels il y a un prix d'$1 million. Vous avez un problème très simple. Vous allez de Toulouse à Bordeaux, d'accord, et vous ratissez tous les départements que vous voyez dans sur votre passage et vous fixez comme objectif de distribuer une lettre dans chaque boîte aux lettres. De tous les habitants de département. La question est-ce que je peux le faire dans un temps raisonnable et sans me passer plusieurs fois par la même ville, voilà. Donc pour le moment, on ne sait pas répondre à cette question.
Donc ça, on le pose en équation, je ne sais pas, j'imagine.
Oh, c'est plus que des équations, voilà. J'ai un ancien élève qui est venu nous faire un exposé là-dessus et c'est très complexe.
On ne va pas rentrer dans cette complexité, d'autant plus qu'on va arriver bientôt au terme de cette émission. Alors, tout ça est passionnant, un peu ésotérique, voire poétique, hein, pour des béotiens comme moi. Vous venez de nous démontrer quand même l'importance fondamentale des mathématiques. Et quand on regarde un peu les mathématiques et les jeunes en mathématiques en France, et surtout sur... N'écoute les enquêtes PISA, je ne sais pas ce qu'elles valent véritablement, mais on sait que la France enregistre une baisse historique du niveau des élèves en mathématiques. C'est quand même extrêmement inquiétant si aujourd'hui tout est à base de mathématiques.
C'est inquiétant, mais je pense que beaucoup de professeurs ne seraient pas surpris. Donc,
oui, ceux qui ne seraient pas surpris, ils sont en première ligne, mais pour autant, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez quand même... Bon, ça n'engage que moi, mais vous avez quand même une baisse du volume horaire de l'enseignement. Un élève de première aujourd'hui, par exemple, qui choisit de faire des mathématiques, la spécialité mathématique, c'est 4 heures. 4 heures, c'est pas beaucoup. C'est pas assez. Il faudrait faire un peu plus. Ensuite, vous avez une diversification des savoirs, des enseignements. Donc aujourd'hui, on fait énormément de choses. Donc au lycée, vous avez de l'économie, de l'initiation à l'économie en seconde, aux sciences du numérique, vous avez de la technologie, vous avez des langues. Donc voilà, donc c'est très diversifié. On est très loin de ce qui se faisait, on va dire, il y a très longtemps, c'est-à-dire les fondamentaux, les maths et le français. Et après, on verra pour le reste. Voilà.
Et pourtant, il y a des pays qui arrivent. Si on regarde toujours le fameux classement PISA, c'est l'Estonie, le Canada, la Finlande et l'Irlande qui sont les plus performants. Oui. Donc, eux, ils y arrivent. Pourquoi nous, on n'y arrive pas?
Moi, je pense que simplement que si on voulait réussir dans ce classement, il suffirait d'entraîner les élèves, mais il n'y a aucun entraînement qui se fait. Vous prenez les sujets PISA des 5 dernières années, vous les faites faire aux élèves, et quand vous allez faire celui de l'année prochaine, ils seront forcément meilleurs que quand ils arrivent sans entraînement. Chez nous, il n'y a pas d'entraînement, c'est sûr. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais...
Donc, nous avons tout un système scolaire à réformer. Enfin, il y a beaucoup de choses à réformer dans l'éducation nationale. Mais on peut faire confiance au moins aux élèves qui sortent du collège parisien Stanislas, bien connu grâce à notre nouvelle ministre de l'éducation, des sports, des Jeux Olympiques, je ne sais quoi encore, qui on va voir si elle sera assez performante pour que l'année prochaine, c'est tous les 3 ans, hein, au prochain classement PISA, nous soyons mieux classés, ce dont vous me permettrez de douter, je ne vous demande pas votre avis, puisque... Vous êtes fonctionnaire et donc tenu à un certain devoir de réserve, ce qui n'est pas mon cas, je m'en félicite. On termine en parlant de livres.
Oui.
Vous nous avez beaucoup parlé d'un livre qui est devant vous, alors je vous laisse nous le présenter. Histoire des codes secrets, je crois.
Voilà, Histoire des codes secrets, donc un livre que je trouve passionnant. Donc, de l'Égypte et des pharaons à l'ordinateur quantique. Vous avez en photo, donc, le fameux Alan Turing. Ça, c'est une version brochée qui est magnifique. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un peu technique par moment, mais toujours bien imagé, expliqué. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages que je n'ai pas évoqués qui sont vraiment très, très intéressants.
Donc, je rappelle, ça s'appelle « L'histoire des codes secrets ». C'est de Simon Singh. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà un gros livre, mais qui a l'air tout à fait passionnant. Vous nous l'avez démontré tout au long de cette heure. Alors, moi, je vais vous parler de notre livre assez rapidement. Si vous aimez Proust, si vous avez lu « La recherche du temps perdu », si vous ne l'avez pas lu, allez-y, parce que vous vous promettez de très très belles heures de lecture. Une fois passées, peut-être, les premières pages, hein, qu'il faut trouver le rythme, il faut s'habituer à l'écriture de Proust. Donc je vous recommande un livre de Laure Murat, « Proust, roman familial » chez Robert Laffont, qui a été prix Médicis de l'essai 2023. Laure Murat est historienne, elle est écrivain, elle est professeure de littérature et à l'Université de Californie à Los Angeles. Elle a écrit un certain nombre de livres, comme je vous le disais, et elle est de la famille Murat, que nous connaissons bien, hein, puisque Murat a été un des officiers de Napoléon et Lautoy, donc ce qui le rend cher à mon cœur. Et Laure Murat, effectivement, a fait partie de... En lisant La recherche du temps perdu de Proust, eh bien, elle se retrouve un peu dans toute l'histoire de sa famille. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je crois qu'il faut lire les deux. Ils sont très complémentaires. Alors, vous lirez plus vite Laure Murat parce que le livre n'est pas très épais. Mais très franchement, il mérite le détour. C'est superment bien écrit. Bon, de temps en temps, elle se laisse aller un peu à l'écriture inclusive, qui n'est pas de mon goût, mais je pense que ça, c'est l'influence un peu américaine. Mais allez-y, Laure Murat, Proust, roman familial, il vous donnera envie de lire Proust vraisemblablement. Et si vous l'avez déjà lu, vous y prendrez un plaisir infini. Merci David Sauzet d'être venu de loin un peu avec tous les barrages qu'il y a. Vous avez une route un peu difficile. J'espère que vous reviendrez nous parler des mathématiques, parce que depuis que vous nous parlez des mathématiques, je me suis mis à aimer les mathématiques. Hein. On les a abordées par la musique, par le codage, par différents biais tout à fait passionnants. Donc j'espère qu'on vous réentendra bientôt sur cette antenne. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec au bouton Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous ses petits camarades sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.